Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés.
Jadis en Ukraine, les canons grondaient. Jadis en Ukraine, le malheur dansait. Le chagrin à l'auberge faisait passer à la ronde l'hydromel et l'eau de vie. Jadis en cette Ukraine, il faisait bon vivre.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Puisqu'il nous revient de parler de l'Ukraine, puisque l'actualité l'exige, je ne pouvais mieux faire que d'inviter Nicolas Werth ce matin. Car depuis longtemps déjà, il a pris la figure, en France et ailleurs, d'un historien majeur de l'univers russe avant et après la chute du mur. Il a su tirer profit, avec une maîtrise reconnue, de l'ouverture des archives à Moscou pour jeter sur l'URSS des éclairages tout à la fois libres et vigoureux. Avec le souci constant de considérer la marque dans notre présent de ces décennies qui ont pesé si lourd dans l'histoire du XXe siècle. Dans un beau livre récent intitulé « La route de Kolyma », il a raconté son voyage dans les paysages du goulag tels qu'ils peuvent apparaître aujourd'hui, avant que s'y effacent tout à fait les traces d'une barbarie. Et plus récemment encore, il s'est attaché à sortir de toutes les tentations de l'oubli la terrible famine ukrainienne de 1932-1933, sans laquelle il serait assez vain de prétendre comprendre les tensions centrifuges qui travaille si fort aujourd'hui ce pays. Il va donc nous aider à analyser les racines des événements auxquels nous assistons et que nous sommes tentés de réduire parfois à la simple concurrence de l'Orient et de l'Occident en aspirations contradictoires. Il va nous aider à mesurer la force des enjeux sociologiques, les villes et les campagnes, des enjeux langagiers, le russe et l'ukrainien, des enjeux économiques et industriels, des enjeux patriotiques. Avec l'ambition, en particulier, de mieux cerner le défi que doit de la sorte affronter notre Union européenne, qui a paru parfois par trop négliger le destin d'une nation qui ne peut certainement pas, en dépit de quelques étourderies, nous demeurer indifférente.
Hélas, un jour,
l'orage a passé, il a tout chassé sous le ciel lourd. Ukraine, quand toi mot lointain s'égrène, la cloche du matin, n'entends-tu pas d'un cœur perdu cette chanson pleurer tout bas dans les frissons du vent, du vent, du vent.
Nicolas Vert, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous proposer une chanson qui s'appelle, ça ne vous surprendra peut-être pas, Ukraine, qui est interprétée ici par André Claveau, une chanson dont les auteurs sont Jacques Larue et Alex Signavine, qui a été déposée à la SACEM à la fin de 1945. Alors évidemment, elle n'est pas d'une densité très grande, elle ne porte pas énormément d'informations, mais elle me paraît renseignée assez bien sur le regard assez élémentaire qu'on jette depuis l'Occident, en tout cas depuis la France, sur ce pays, et aussi sur le contraste entre les richesses potentielles de ce pays et les drames infinis qui l'ont frappé et que nous allons avoir à évoquer longuement.
L'Ukraine, selon l'expression du grand historien Timothy Snyder, les terres de sang, fait partie de ces terribles terres martyrisées, surtout au XXe siècle, bien sûr, puisqu'il ne faut jamais oublier que le XXe siècle a été particulièrement cruel en Ukraine. D'abord, la guerre civile, ensuite, évidemment, la grande famine de 1932-1933, et puis les pertes terribles de la Seconde Guerre mondiale. N'oublions pas que l'Ukraine avait à peu près la même population que la France dans les années 30, autour de 35 millions d'habitants. Les pertes ont été absolument terribles. Mais ça, c'est qu'une partie de cette histoire d'un siècle, le continent des ténèbres, comme dit Marc Mazower.
Qui ne peut pas ne pas peser sur les sensibilités immédiates contemporaines telles que nous les observons.
Tout à fait, mais bon, l'Ukraine, c'est aussi le résultat d'une histoire très longue qui a commencé il y a plus de 1000 ans. Je me souviens encore en 1988, j'étais en poste à Moscou et on célébrait le millénaire de la christianisation de l'Ukraine qui avait commencé justement à Kiev en 988 lorsque la principauté de Kiev sous Vladimir le Grand a pris le christianisme. Ça a été le début de l'histoire russe, si l'on peut dire, puisque on sait bien que Kiev est la mère de toutes les villes russes, que la Russie a commencé dans ce premier état qu'a été la Russie de Kiev.
Alors ça nous mène tout droit à de grands débats d'ailleurs. Est-ce que la Russie est née en Ukraine? Qu'est-ce que c'était que cette grande affaire des Russes?
La grande affaire des Russes, oui, ça a été évidemment le débat de grand débat historiographique encore au XIXe siècle parmi les historiens russes et ensuite les historiens soviétiques pour montrer qu'il y a une sorte de filiation légitime entre la Russie kievienne et la Russie moscovite, ce qui évidemment aujourd'hui n'est pas sans enjeu lorsqu'on sait à quel point la Russie ne veut pas lâcher l'Ukraine.
Il y a un choc de patriotisme hérité d'un millénaire.
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que, au fond, le premier état des Slaves de l'Est était bien sûr la Russie de Kiev, avec une organisation politique assez avancée, fondée sur le commerce, sur des villes relativement importantes comme Kiev, Smolensk, voire Novgorod. C'était une entité étatique qui avait des liens privilégiés d'ailleurs avec Byzance, qui était quand même très développé. Tout ça, ça s'est brutalement cassé en 1240 avec la prise de Kiev par les Mongols.
Ça a duré du 9e siècle au 13e.
Au milieu du 13e, voilà. Et ensuite, évidemment, le centre de gravité de la Russe s'est porté vers le nord-est, vers Vladimir, vers Moscou, qui a émergé au XIVe siècle comme la nouvelle puissance des Slaves de l'Est, avec évidemment d'un autre côté l'influence très forte déjà du royaume lituano-polonais sur les régions qui étaient celles de Kiev, avec donc cette double influence, d'un côté, du côté de Kiev, une influence polonaise de plus en plus forte, et la fracture avec l'influence moscovite du côté de Moscou.
L'Ukraine, cela veut dire frontière, ça veut dire marche. Au fond, c'est une zone qui a toujours été floue et mouvante, l'Ukraine. Il y a peu de frontières naturelles. C'est peut-être pour ça qu'elle a été très rarement dans l'histoire, très rarement un État, une nation, puisqu'à partir de 1340, avec une exception au XVIIe siècle, pour l'essentiel, l'Ukraine a été divisée entre des puissances concurrentes et on ne peut pas ne pas y songer aujourd'hui, quand on la voit ainsi soumise à des forces centrifuges.
Le mot même d'Ukraine, c'est en effet Akraïna, c'est-à-dire la frontière, puisque, en effet, entre les zones d'influence directe de la Pologne et de la Russie, il y avait cette zone floue, sorte de no man's land qui échappait longtemps au contrôle de tout État, et où sont développées justement des organisations d'hommes libres militaires que sont les fameux Cosaques qui apparaissent au XVIe siècle et au début du XVIIe, avec ce personnage qui aujourd'hui il y a une statue magnifique en face de la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev, qui est Bogdan Khmelnytskyi, qui est le hetman, le chef militaire des Cosaques, qui en 1654 a signé un accord avec la Russie pour se mettre en quelque sorte sous la protection de la Russie face à l'influence grandissante de la Pologne. Il y a là aussi un conflit naturellement de religion, puisque les Cosaques étaient orthodoxes et voulaient résister à la polonisation, à la catholisation, si je peux m'exprimer ainsi, donc de la Pologne sur ces régions. Les Cosaques espéraient une très large autonomie dans le système étatique russe. Or, cette autonomie a été très rapidement grignotée. Et l'Ukraine, surtout au XVIIIe siècle, est vraiment devenue une sorte de colonie de la Russie, surtout sous Catherine II, qui a introduit le servage, qui a supprimé les privilèges des Cosaques et qui a introduit, au fond, l'administration de l'Empire. Et l'Ukraine est alors devenue véritablement une région comme une autre, si l'on peut dire, de l'Empire russe, avec tout l'ordre administratif et social de l'Empire russe, introduit essentiellement à la fin du XVIIIe siècle sous le règne de Catherine II.
Voltaire, d'ailleurs, comme souvent, a résumé la situation de manière limpide. Il écrit dans son histoire de Charles XII, « L'Ukraine a toujours aspiré à être libre, mais entourée de la Moscovie, des États du Grand Seigneur et de la Pologne, il lui a fallu chercher un protecteur et par conséquent un maître. » Dans l'un de ces trois États, elle se mit d'abord sous la protection de la Pologne, qui la traita trop en sujette. Elle se donna depuis aux Moscovites, qui la gouverna en esclave. Le 19e siècle, en même temps, en Ukraine comme ailleurs, voit surgir le mouvement des nationalités que l'on observe dans toute l'Europe et qui se manifeste en particulier en 1848. Peut-être faut-il s'y arrêter un instant, avec le problème langagier notamment.
Il faut bien savoir que déjà à ce moment-là, bon, plutôt revenir à la fin du XVIIIe siècle, puisque une partie de l'Ukraine, qui est au fond la Galicie, est prise par l'Empire austro-hongrois au moment du second partage de la Pologne. Et donc, on a déjà une division absolument fondamentale à ce moment-là de l'Ukraine, avec une partie qui va être partie de l'Autriche-Hongrie, où le régime va être relativement plus souple par rapport aux nationalités qui vont pouvoir développer leurs aspirations. Et puis, l'autre partie de l'Ukraine, qui fait partie de l'Empire russe, où la politique disons, de répression des nationalités est quand même beaucoup plus forte, notamment sous Nicolas Ier, qui, entre autres, insiste beaucoup sur la nécessité de lutter contre toutes les formes de nationalisme et en particulier contre le développement d'une littérature nationale symbolisée par le grand poète Taras Shevchenko.
Je signale à nos auditeurs parisiens que l'on trouve sa statue, on ne le sait pas toujours, dans un petit square qui est à la rencontre de la rue des Saints-Pères et du boulevard Saint-Germain, à côté de l'église ukrainienne. Voici deux poèmes que nous avons rapprochés de Taras Shevchenko, qui sont lus par Jacques Torrance sur France Culture en juillet 1964.
Jadis en Ukraine, les canons grondaient. Jadis, les aporogues savaient s'imposer. S'imposer, conquérir gloire et liberté. Tout a passé. Seules dans les steppes, les hautes tombes demeurent. Ces tombes si hautes où reposent à jamais les corps blancs des Cosaques, enveloppés de pourpre. Les hautes tombes dans les steppes noires des montagnes parlent avec le vent de la liberté. Témoins de la gloire d'antan, elles s'adressent au vent, tandis que le petit-fils, à travers la rosée, porte sa faux et reprend leur chant. Jadis, en Ukraine, le malheur dansait. Le chagrin, à l'auberge, faisait passer la ronde, l'hydromel et l'eau de vie. Jadis, en cette Ukraine, il faisait bon vivre. La vérité, quand s'éveillera-t-elle ? Lorsque tu te couches et reposes, Dieu là, nous montres-tu la vie ? En ta force créatrice, nous avons foi, Seigneur Tout-Puissant. La vérité se lèvera, la liberté renaîtra. Et chez toi, Maître, tous les peuples debout seront comme une armée dans les siècles des siècles. Mais en attendant, des fleuves coulent. Des fleuves de sang. Par-delà les montagnes, des monts couverts de nuées sont ensemencés de malheur et arrosés de sang. Là, par la grâce divine, à la nudité misérable, nous avons tout enlevé, tout ce qui restait jusqu'à la liberté.
Alors, Nicolas Vert, d'abord expliquez-nous ce qu'est le mot zaporogue.
Le zaporogue veut dire textuellement... Au-delà des rapides, bon, il s'agissait des rapides du Dniepr et il s'agissait des Cosaques organisés en communautés libres. Il y a plusieurs types de Cosaques, mais les Cosaques zaporogues étaient sans doute les plus connus, en tout cas les plus batailleurs.
Ça renvoie d'ailleurs par parenthèse à un roman de P.J. Stahl, en fait Hetzel, qui était dans la Bibliothèque verte et que notre adolescence avait lu, qui s'appelait Maroussia. Maroussia, c'était une vaillante
héroïne.
Qui défendait le patriotisme cosaque.
Dans ce poème, il y a le thème de l'âge d'or de la liberté des Cosaques, avant l'imposition, à la fin du XVIIIe siècle, du servage en Ukraine, avant la domination coloniale de la Russie sur cette terre extrêmement riche et qui est restée longtemps un symbole de liberté avec ses immenses étendues et le mythe cosaque extrêmement fort.
Alors, quelle est l'influence des idées, des Lumières, de la Révolution française ? On sent cela assez bien dans ce poème de Shevchenko.
Oui, Shevchenko était un démocrate avant l'heure dans la Russie autocratique de Nicolas Ier, qui luttait non seulement pour l'idée nationale, mais pour l'abolition du servage, une sorte de confédération librement consentie des peuples slaves, des grands Russiens, des petits Russiens et des Biélorussiens, qui luttaient également pour plus de liberté religieuse et bien sûr pour la reconnaissance de la langue ukrainienne.
Alors qu'il y a un gros effort venu de Saint-Pétersbourg pour imposer, pour russifier l'enseignement et pour écraser l'ukrainien en tant que tel. Parce que l'ukrainien est une langue cousine, mais très, très différente.
L'ukrainien est une langue cousine, mais l'ukrainien est bien plus différent du russe que le biélorusse, par exemple. Il y a une forte influence polonaise dans l'ukrainien.
La distinction remonte à une période qui va du 14e au 18e siècle.
Au 18e siècle, qui s'est formée donc petit à petit. Il ne faut pas oublier aussi quand même qu'à côté de... On peut parler bien sûr de Taras Shevchenko, mais il y a aussi le grand Nicolas Gogol qui, lui, était fasciné positivement par la Russie. Il est allé de son village d'Ukraine à Saint-Pétersbourg. Donc,
mais Gogol écrivait en russe.
Bien sûr, il écrivait en russe. Donc, il faut nuancer. Il y a des écrivains, bien sûr, de langue ukrainienne, dont le symbole est Taras Shevchenko, mais il y a aussi... des Ukrainiens qui écrivaient en russe et qui étaient comme Gogol et qui étaient absolument fascinés par la culture russe et qui a quand même écrit l'essentiel de son œuvre, bien sûr, en russe.
Il reste que 2 ans après la mort de Shevchenko, après beaucoup de malheurs, il meurt en 1861, Moscou décide d'interdire d'imprimer et d'enseigner en ukrainien en 1863. C'est le moment de la révolte de la Pologne aussi.
Voilà, je pense que ça, c'était très important, enfin, la révolte de la Pologne. En général, sur l'Ukraine, on le voit dans l'histoire même du XXe siècle, il y a un durcissement de la politique russe par rapport à l'Ukraine, aussi en fonction de ce qui se passe dans la Pologne. On le voit très bien dans les années 1930, lorsque Staline va réprimer profondément le nationalisme ukrainien, c'est parce qu'il a peur aussi d'une sorte d'ingérence de la Pologne et d'une sorte d'union entre Pologne et Ukraine. Donc il ne faut jamais oublier ce facteur extérieur et la Pologne joue un rôle extrêmement important dans cette politique.
Aujourd'hui encore, on éprouve le sentiment que la Pologne se préoccupe particulièrement de ce qui se passe en Ukraine. La Pologne qui fait partie bien évidemment de l'Union européenne et pèse et compte.
Évidemment, puisqu'au fond, non seulement sont deux pays limitrophes, mais l'influence de la Pologne a toujours été très importante sur au moins l'Ukraine occidentale. Et encore une fois, il ne faut jamais oublier que l'Ukraine est un pays extraordinairement diversifié. Lorsqu'on voyage en Ukraine, entre Kharkov, qui a cette architecture lourde stalinienne où la population parle russe, et une ville comme Lviv, qui était polonaise, n'oublions jamais, entre 1918-19 et 1939, il y a une différence énorme, à la fois sur le plan de vue architectural, évidemment linguistique aussi, et sur les mentalités.
Combien de gens parlent en pourcentage le russe aujourd'hui en Ukraine ? On a une idée ?
Beaucoup d'Ukrainiens parlent russe aussi.
Je veux dire en famille ? Je veux dire
en famille, oui. En famille, je dirais pratiquement un tiers aujourd'hui. Cette proportion diminue, mais il faut savoir qu'il y a au moins 20% de Russes en Ukraine. Et c'est vrai que les liens entre les deux peuples sont quand même extrêmement proches par beaucoup d'aspects, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des millions et des millions d'Ukrainiens qui habitent en Russie. Et évidemment, le nombre de familles mixtes est absolument considérable.
Il y a eu un moment, c'est souvent oublié, entre 1917 et 1921, où il y a eu un État ukrainien qui a ressurgi plusieurs siècles après l'échec de Kalinitsky, que nous évoquions tout à l'heure, qui a ressurgi, qui a duré un moment, qui a même été reconnu en Europe. Je crois qu'il faudrait évoquer ce qui s'est passé là, avant que cet État soit écrasé par les armées rouges.
La révolution russe a été le signe d'un renouveau des nationalités, pas seulement, bien sûr, en Ukraine, mais pour en rester à l'Ukraine. Dès le début de 1917, il y a une rada, une assemblée ukrainienne, avec une marche vers d'abord l'autonomie, puis l'indépendance, aussitôt la révolution bolchevique en marche à Petrograd, puis à Moscou, avec un État indépendant qui se forme dans une situation extraordinairement complexe, puisque il y a un gouvernement parallèle bolchevique qui se forme à Kharkov début 1918, et puis un gouvernement de la Rada ukrainienne qui est à Kiev, mais qui est chassé de Kiev, qui va à Jytomyr. Et à ce moment-là, au moment du traité de Brest-Litovsk, ce premier
entre
état
l'Allemagne, entre l'Allemagne,
entre
et,
l'Allemagne
la Russie.
Et la Russie soviétique, il y a un état ukrainien sous protectorat, pratiquement sous protectorat allemand, qui est dirigé par Skoropadsky, le Hetman Skoropadsky, qui lui-même est chassé en novembre 1918, lorsque l'Allemagne s'effondre, est chassé donc par ce qu'on appelait un directoire, dirigé par Simon Petlura et Vinichenko, qui est la base d'un État national ukrainien qui va durer à peu près 3 années.
Et qui va devoir se définir à la fois contre les Allemands, c'est fait,
oui,
contre l'armée blanche,
Et contre l'armée rouge. En effet, donc, on a là une situation extrêmement complexe, puisqu'à la fois les Blancs, sous la direction de Dénikine, essayent de reprendre l'Ukraine, il y a les bolcheviks, et il y a ce mouvement paysan tout à fait unique, sous la direction de l'anarchiste Makhno.
Et qui va finalement être manipulé, trahi, mais qui laisse un souvenir vivant, en particulier dans toute une tradition libertaire. Comme en témoigne cette chanson que je vais vous faire entendre, un texte d'Étienne Rodagil, qui emprunte d'ailleurs, non sans quelques malices, un thème musical à un chant bolchévique russe, les partisans, pour rendre hommage à l'immense armée de ces paysans ukrainiens qui durent se battre contre ses différents adversaires.
Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans, qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Dénikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersé dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersé dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans, qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
L'arrangement est de Serge Ujiroyo qui interprète également cette chanson. On peut signaler que Nestor Makhno, gravement blessé, pourchassé de tous les côtés, fuira l'Ukraine et traversera l'Europe et quelques prisons et finalement se réfugiera en France, aidé par des libertaires, et mourra en 1934 dans la précarité et dans la souffrance. Mais on voit bien dans cette chanson le noir qui domine, l'opposition entre le noir et le rouge, n'est-ce pas?
Oui, il y a une certaine nostalgie dans la chanson pour le mouvement libertaire.
Oui, Nicolas
Alors Berthe. Que, bon, il y avait d'autres aspects dans ces mouvements insurrectionnels paysans et des aspects beaucoup moins sympathiques, notamment un antisémitisme très fort. Il ne faut jamais oublier que l'Ukraine de 1919-1920, c'est aussi les plus grands massacres de juifs avant l'Holocauste. Hein. Plus de 100 000 morts, des centaines de milliers de femmes violées, par, au fond, pratiquement toutes les parties en présence. Bien sûr, l'antisémitisme des Blancs, l'antisémitisme de l'armée populaire ukrainienne dirigée par Petlura, l'antisémitisme des paysans insurgés, et puis l'antisémitisme, cette fois-ci évidemment réprimé par les autorités, de la fameuse cavalerie rouge de Budion, et dont la forme littéraire sont les fameuses nouvelles d'Isaac Babel. Cet aspect-là des choses a été souvent occulté. Mais c'est une réalité très forte et il faut bien comprendre l'opposition très importante dans l'Ukraine, fondamentale, entre les campagnes ukrainiennes et les villes peuplées de Russes, mais aussi de Juifs. Il ne faut jamais oublier aussi que l'Ukraine était le cœur de la zone de résidence des Juifs de l'Empire russe et ensuite donc une grande zone de peuplement juif.
Donc l'antisémitisme ukrainien est aussi vif que celui qu'on a observé en Pologne?
Oui, absolument, parce qu'il se nourrit à ce mythe extrêmement fort du judéo-bolchevisme qui a été propagé à la fois par les Blancs, mais au fond, en Ukraine, ce mythe a été extrêmement fort et a été aggravé, disons, sans doute par la famine de 1932-33, puisque elle a été ressentie comme une attaque de la part des Moscali, des gens de Moscou, avec associés dans l'esprit de beaucoup de paysans, associés donc aux Juifs.
Alors venons-en à cette période essentielle, dramatique, je ne sais pas si c'est le plus dramatique que les autres peut-être, qui est la période de la grande famine sur laquelle vous avez vous-même travaillé. Vous avez publié récemment un article très éclairant, dans les tonalités sombres évidemment, dans la revue 20e siècle.
Oui, c'est une grande question, disons, majeure de l'historiographie post-soviétique. Depuis le livre de Robert Conquest, paru en 86, Sanglante moisson, qui le premier a étudier cette famine, on a beaucoup appris depuis l'ouverture des archives.
Ça, c'était juste avant la chute du mur.
Robert Conquest avait fait ce travail extraordinaire, notamment grâce aux témoignages recueillis dans le cadre du Harvard Project des années précédentes, visant à avoir un maximum de témoignages d'Ukrainiens émigrés, notamment aux États-Unis, au Canada. Il y a eu, après donc la chute de l'URSS, après l'indépendance de l'Ukraine, un grand travail fait par des historiens ukrainiens, à la fois de collecte des derniers témoignages, mais aussi un grand travail d'archives.
Et voilà un témoignage parmi d'autres pour ouvrir ce moment de notre conversation. C'est un extrait du documentaire diffusé sur Arte en 2012 qui s'appelait « L'impossible démocratie » avec l'interview d'une journaliste ukrainienne, Miroslava Letchenko, qui évoque ses souvenirs. Le film est réalisé par Gilles Emery et Jean-Michel Carré.
J'avais 10 ans quand j'ai été frappée par l'Holodomor. Les morts gisaient partout dans la ville. Les enfants avaient peur de sortir parce qu'on les attrapait. Et les gens affamés devenaient cannibales. Un jour, j'ai vu un chariot passer dans la rue, rempli de corps qu'on avait ramassés pour les mettre dans une fosse commune.
Le petit Vassilko,
on l'appelait comme ça, a été pris et traîné sous nos yeux. Nous courions derrière en criant. Il est vivant, ne le prenez pas. Je suis vivant, criait-il.
Mais
ils l'ont jeté sur le tas de cadavres. Ils l'ont frappé. Ils ont appuyé sur lui de toute leur force jusqu'à l'écrasement pour éviter que le chariot ne déborde.
Alors, Nicolas Werth, pouvez-vous nous dire, nous expliquer ce qu'a été cette famine ?
La famine en Ukraine fait partie des famines soviétiques consécutive à la collectivisation, puisqu'il y a eu une famine au Kazakhstan, il y a eu une famine dans les régions de la Volga. Mais ce qui distingue la famine ukrainienne des autres famines soviétiques, c'est qu'à partir de l'été 1932, Staline a décidé vraiment d'utiliser, dans le cas de l'Ukraine, l'arme de la faim pour briser toutes les résistances en Ukraine, particulièrement fortes, contre la collectivisation des campagnes. Les études récentes menées à la fois par des historiens occidentaux et les historiens ukrainiens insistent justement sur cette spécificité de la famine en Ukraine qui n'est pas seulement due à des prélèvements prédateurs sur les récoltes dans le cadre des plans de livraison de collecte obligatoire, mais véritablement sur la confiscation à partir d'un certain moment de toute la nourriture pour briser la résistance des Ukrainiens.
C'est pourquoi il ne vous apparaît pas illégitime de parler de génocide à côté du génocide arménien et naturellement du génocide juif. Le terme inventé par Lemkin, juste après la guerre, peut s'appliquer avec les différents traits qui caractérisent à ses yeux le génocide. C'est-à-dire la détermination, un plan délibéré et organisé et un groupe humain bien défini.
On a trouvé par exemple un document absolument accablant du 22 janvier 1933, signé de Staline lui-même, ordonnant le blocus des villages affamés ukrainiens qui, au fond, condamnaient des millions de paysans ukrainiens à la mort par faim. Aucune aide, évidemment, à la différence de la famine de 22 où il y a une aide internationale qui est mobilisée et Lénine est d'accord pour apporter une aide pour les affamés de la Volga en 1922. Ici, c'est un blocus total de l'information. Cette famine n'existe pas. Il y a un blocus effectif. On bloque par des cordons de troupes. On interdit la vente de billets de chemin de fer pour que les gens ne puissent pas s'échapper des villages affamés et colporter cette rumeur de la famine qui est absolument niée par le régime. Et il ne faut jamais oublier qu'au fond, en Ukraine, entre janvier 1933 et août 1933, c'est en moyenne 15 000 personnes qui meurent de faim chaque jour. Un chiffre absolument considérable. Quand on pense par exemple aux pertes françaises de la Première Guerre mondiale, 900 hommes par jour, là on est dans un pic d'intensité absolument extraordinaire, de mortalité. 3,5 millions de personnes meurent en l'espace de 8 mois. C'est une hécatombe absolument terrible.
Une petite ville française par jour.
Oui, une petite ville française par jour, puisqu'on peut comparer tout à fait à la fois géographiquement en tant que superficie et en population l'Ukraine et la France. Et aujourd'hui, il est vrai que le Holodomor, c'est-à-dire c'est le terme forgé par les Ukrainiens pour qualifier cette famine intentionnelle, à partir d'un certain moment, je le répète bien, à partir quelque part de l'été 1932, ce terme de Holodomor, d'abord, c'est synonyme pour eux de génocide. Je rappelle que le Parlement ukrainien, en 2006, a officiellement décrété le Holodomor comme un génocide.
Je voudrais vous citer une description de Grossman dans Vie et Destin qui est vraiment saisissante. Le village était empli de gémissements doux et plaintifs. De petits squelettes, les enfants rampaient à terre dans les isbas en geignant. Les hommes, les pieds gonflés d'eau, erraient dans les cours, incapables du moindre effort. Les femmes cherchaient quelque chose à cuire. Tout avait été cuit, tout avait été mangé. Orties, glands, feuilles de tilleul, sabots, vieux os, cornes qui traînaient dans les arrière-cours, peaux de moutons. Et les gaillards, venus de la ville, allaient de maison en maison, passant devant les morts et les agonisants, ouvraient les caves, creusaient des trous dans les granges, sondaient le sol avec des tiges de fer. Ils cherchaient le grain que cachaient les koulaks. Quelqu'un à l'époque disait que les seuls qui ont survécu, c'était les cadres communistes et les anthropophages.
Cette caractéristique de cette famine, c'est que, entre autres, c'était des gens bien nourris qui regardaient mourir leurs compatriotes.
Est-ce que cet événement, aujourd'hui encore, dans cette Ukraine qui démographiquement a été tellement affaiblie en attendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que cette mémoire est encore très, très présente ?
Il y a un débat extrêmement intéressant entre les historiens ukrainiens et russes sur la question. Pour les historiens russes, les famines sont une tragédie collective des campagnes soviétiques. Il faut dire que très peu d'historiens travaillent sur ces questions en Russie. En Ukraine, en revanche, c'est aujourd'hui, enfin depuis la Révolution orange, c'est une des thématiques fortes, puisque l'identité ukrainienne post-soviétique s'est quand même largement construite ou reconstruite autour du thème du Holodomor, qui est un thème absolument fondamental. Et il suffit de voir les grands monuments au Holodomor à Kiev, notamment avec ce mémorial assez extraordinaire, qui voisine d'ailleurs le grand mémorial soviétique de la mère patrie, érigé après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a côte à côte l'union du peuple ukrainien et du peuple russe dans la Seconde Guerre mondiale, et puis le monument au Holodomor qui a été inauguré il y a peu d'années. J'étais d'ailleurs récemment, en novembre, aux commémorations du 80e anniversaire du Holodomor, assez impressionnante.
Les rumeurs, évidemment, dans ces périodes-là sont très importantes. Il y a celles qui concernent le sac de blé, le seau de sang et le vieillard, Nicolas Werth.
Oui, c'est une des rumeurs qui montre le traumatisme durable du Holodomor. Une rumeur qui date de 1936-37. On disait dans les campagnes qu'il y avait ce vieillard assis à côté d'un seau de sang. Et on déchiffrait la rumeur de la manière suivante, c'est que bientôt arriverait la guerre qui permettrait de délivrer les paysans du système kolkhozien, et ils pourraient de nouveau manger à leur faim. Thème de la dissolution rapide des kolkhozes était un thème de rumeur extrêmement important dans la Russie des années 30, qui montrait le traumatisme de cette collectivisation extrêmement brutale.
Mais la guerre est arrivée, de fait, et elle a été porteuse de nouvelles souffrances immenses pour le peuple ukrainien, dont évidemment la trace, la marque, reste aujourd'hui très forte dans ce pays tel que nous l'observons.
Entre 7 et 8 millions d'Ukrainiens sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Un formidable déficit démographique. Il y a eu 2 millions d'Ukrainiens, de soldats de l'armée rouge tués, mais les 6 autres millions, c'était des civils sous une occupation d'une dureté extraordinaire, avec des millions d'Ukrainiens envoyés d'ailleurs comme Ostarbeiter en Allemagne. Il y a parmi les victimes, plus d'un million de Juifs résidant dans la RSS d'Ukraine qui sont massacrés. Et sur les confins de la Galicie, il y a cette lutte des nationalistes ukrainiens, à la fois contre les bolcheviks, contre l'armée rouge, et contre les nazis, et contre les Polonais, dans un déchaînement de violences génocidaires qui a laissé des traces absolument terribles. Il faut savoir aussi, au fond, que la guerre ne s'est pas véritablement terminée en Ukraine en 1945, puisqu'il y a eu une très longue reconquête par les soviétiques de ce qu'ils appelaient l'Ouest sauvage, de l'Ukraine occidentale, tenue jusqu'en 1948-1949 par la guérilla nationaliste qui prônait ce nationalisme intégral de Stepan Bandera, l'organisation des nationalistes ukrainiens avec sa branche armée, l'UPA, l'armée insurrectionnelle ukrainienne, qui tenait au fond toute une partie de la campagne profonde de l'Ouest ukrainien. Une sale guerre de pacification.
Oubliée aujourd'hui, évidemment, en tout cas en Occident.
où le nombre des victimes approche du million, des déportations massives de populations en 1947-1948, envoi de centaines de milliers d'Ukrainiens, nationalistes ukrainiens au goulag, et cette guerre qui ne se termine que quelque part au début des années 50.
Et aujourd'hui, vous pensez que cela pèse dans le camp de ceux qui sont plutôt tournés vers l'Union européenne, sur l'Union européenne veulent bien, évidemment, se prendre la main qu'on lui tend.
Bien sûr, il y a une très grande différence entre l'Ukraine de l'Ouest, avec un sentiment, bon, bien sûr, anti-soviétique, mais aussi anti-russe assez fort, avec la présence de ce parti ultranationaliste de Svoboda, la liberté, qui joue un rôle relativement important sur l'échiquier politique ukrainien, qui est d'ailleurs affilié à toute une série de partis d'extrême droite européens. Et puis, la partie russophone de l'Ukraine, dominée largement par le parti des régions de Viktor Yanukovych.
Qui est l'actuel président du parti des régions, qui, comme on sait, si on est attentif à l'actualité, particulièrement soucieux de ne pas se brouiller avec Moscou. « Ah, ne me brouillez pas avec la République », aurait-on dit chez Corneille. La Révolution orange s'interprète comment sous la lumière de cette longue durée, Nicolas Werth ?
La Révolution orange est une révolution...
2004-2005.
De 2004-2005, donc avec le président Viktor Yushchenko qui a battu de très peu l'actuel président Viktor Yanukovych, s'interprète d'abord comme une révolution contre la corruption qui est extrêmement forte et qui marque, on sait encore aujourd'hui, très fortement l'Ukraine. Il suffit de voir dans le classement d'Amnesty International, l'Ukraine est dans les pays les plus corrompus.
Avec comme du côté russe, en somme, le pouvoir des oligarques qui sont souvent des héritiers du Parti communiste.
Oui, mais en Russie, les oligarques ont été, comme Berezovsky par exemple, ont été écartés de la politique. Tandis qu'en Ukraine, les oligarques sont au cœur de la politique. Yulia Tymoshenko, par exemple, est aussi une oligarque qui a fait carrière dans les années 2000 et qui a fait fortune dans les années 2000.
Il y a aussi le fameux Porochenko, qui est le roi du chocolat, et qui tient beaucoup à ce qu'on puisse continuer à vendre son chocolat en Russie.
Oui, il y a bien sûr aussi les oligarques du charbon, du bassin minier du Donetsk. Au fond, la politique ukrainienne doit se lire aujourd'hui aussi comme un combat entre différents clans des oligarques. Il y a ce qu'on appelle la famille Yanukovych, puisque autour de Yanukovych, il y a plusieurs membres de sa famille qui sont extrêmement liés à ce système. Et puis, il y a le clan Tymoshenko.
C'est cette dame qui a été ancien Premier ministre et qui est aujourd'hui emprisonnée.
Qui est aujourd'hui emprisonnée, oui, depuis 2011. Un procès autour de malversation dans les contrats gaziers. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été absolument innocente dans toute cette affaire, mais c'est évident que c'était aussi un procès politique pour l'écarter du pouvoir. Il faut dire que son parti, qui s'appelait le Bloc Yulia Tymoshenko, a changé de nom, mais il existe toujours et c'est une force politique importante puisqu'elle a une centaine de députés au Parlement sur les 450. Il y en a à peu près 200 pour le Parti des régions. Et puis il y a sur l'échiquier politique, il y a Parti socialiste, Parti communiste, le Parti Svoboda d'extrême droite, qui sont des partis qui ont une quarantaine de députés chacun.
En dehors de cette double polarité, l'Est et l'Ouest, qu'est-ce qui demeure de l'histoire, et en particulier de ces moments dramatiques que nous avons évoqués? Qu'est-ce qui demeure dans l'ordre de l'économie et des affrontements économiques? On ne peut pas lire ça uniquement en termes d'aspiration culturelle,
non.
L'Est ou l'Ouest?
Non, absolument. D'ailleurs, je pense que ce serait une grande erreur de penser qu'au fond, la polarisation se passe uniquement entre les partisans de l'Union européenne et les partisans de la Russie. il y a un grand désenchantement, en tout cas tel que je le vois, moi, simplement à la base, en allant en Ukraine assez souvent, voir des collègues universitaires. Ils sont parfaitement conscients des réalités géopolitiques, qu'ils ne peuvent pas se passer de l'influence de la Russie, parce qu'une très grande partie des échanges de l'Ukraine se fait avec la Russie. Simplement, ils se rendent bien compte également que l'Europe ne peut pas prendre en charge l'immense Ukraine, enfin, 5 fois plus peuplée que la Grèce, qui a une dette absolument considérable. Et en fait, il y a une grande ambiguïté dans ce combat des pro-européens, parce qu'il y a des aspirations très différentes entre l'intelligentsia, le milieu des étudiants, qui souhaitent lutter derrière ce combat pour l'Europe contre les inégalités sociales, contre la misère populaire, et puis les combats politiques qui sont manipulés, qui sont d'un autre ordre.
Sur le poids de l'histoire dans les débats contemporains, on ne peut qu'être frappé de l'utilisation de ce qui fut au profit de ce qu'on souhaite voir advenir. Un signe, c'est cette réapparition de l'hymne ukrainien. L'Ukraine n'est pas encore morte. C'était un poème des années 1860, un poème de Paul Chubinsky, et que l'on chante dans les manifestations, par exemple celle-ci à Kiev, le 22 novembre 2004.
Je voudrais juste souligner, c'est que ce chant, cet hymne patriotique, c'était aussi celui chanté par les paysans ukrainiens insurgés contre la collectivisation en 1930, qui faisait tellement peur finalement à Staline, parce qu'il se rendait compte que s'il y avait une menace à l'ordre de l'empire qu'il voulait établir à ce moment-là, c'était bien ce nationalisme paysan ukrainien. Jamais oublié que la moitié de toutes les révoltes paysannes au moment de la collectivisation en 1930 ont eu lieu en Ukraine.
Mais même après la mort de Staline, après le relatif allègement de l'emprise au temps de Khrouchtchev et ensuite, on voit le nationalisme ukrainien garder sa force, préoccuper d'ailleurs Moscou dans les années 60 et au début des années 70. Oui, il y a probablement encore des traces de cette figure de Chélès qui est intéressante.
Bien sûr, c'est une figure extrêmement intéressante puisque il était un des grands hiérarques du parti, membre du Politburo et premier secrétaire du Parti communiste ukrainien entre 63 et 72. Et il a essayé de maintenir, développer une certaine forme de conscience nationale ukrainienne et de nationalisme. D'ailleurs, il a été limogé en 72 pour ça. Encore une fois, en liaison avec la grande préoccupation qu'avait le régime brejnevien de ce qui se passait sur sa frontière occidentale et de la Pologne, éventuellement aussi quelques années avant de la Tchécoslovaquie. Donc il faut toujours mettre en relation cette crainte du nationalisme ukrainien en relation avec ce qui se passe dans les pays limitrophes de l'Est.
Aujourd'hui, ce nationalisme, est-ce qu'il est plus marqué dans les villes ou dans les campagnes? Est-ce qu'il est plus marqué à l'Est ou à l'Ouest? Est-ce qu'on rejoint ces tensions que la presse nous dit si fortes?
Il est surtout marqué, évidemment, à l'Ouest, parce que l'Ouest a une histoire foncièrement différente, l'Ouest de l'Ukraine, de l'Est. À l'Est, il y a une véritable intégration des Ukrainiens et des Russes. Et je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre, que ce contraste qu'a légué l'histoire entre l'Est et l'Ouest, et d'ailleurs il y a des choses extrêmement étranges, puisque par exemple, où est-ce qu'on célèbre le plus le Holodomor? C'est dans l'Ouest. Or, l'Ouest n'a pas connu la famine, puisqu'évidemment, l'Ouest faisait partie de la Pologne dans les années 30. Et donc, on voit à quel point, par exemple, le thème du Holodomor est politiquement instrumentalisé par les nationalistes de l'Ouest. Tandis que dans l'Est, dans la région, par exemple, de Dniepropetrovsk, où la famine a fait des ravages, on parle relativement peu du Holodomor.
Parce que l'influence russe reste très forte.
Parce que l'influence russe reste très forte. Donc, comme quoi, l'instrumentalisation de l'histoire et des questions de mémoire est quelque chose de très courant, et l'Ukraine n'y échappe pas.
Cela, à vrai dire, ne nous étonne pas ici. On le voit en particulier dans plusieurs de vos ouvrages auxquels je voudrais rendre hommage. J'ai utilisé, je l'ai dit, votre important article de 20e siècle, la revue 20e siècle, parue dans le numéro 1 de 2014, « Retour sur la grande famine ukrainienne de 1932-1933 ». Vous avez publié aussi avec Alexis Berelovitch « L'État soviétique contre les paysans », paru chez Talendier en 2011. On ne s'éloigne guère de notre sujet d'aujourd'hui. Et puis je signale aussi, un peu antérieur, « L'ivrogne et la marchande de fleurs », paru chez Talendier en 2009 et repris dans la collection Point en 2011. C'est un titre qui peut intriguer et qu'il faut que vous nous expliquiez.
Oui, il s'agit d'une étude de la Grande Terreur.
Pourquoi l'ivrogne et pourquoi la marchande de fleurs?
L'ivrogne et la marchande de fleurs, parce que d'habitude, lorsqu'on pense à la Grande Terreur, on pense au procès de Moscou, on pense aux purges des cadres politiques, économiques, militaires. Mais l'immense majorité des victimes de la Grande Terreur, c'est des simples gens. Et mon ivrogne et ma marchande de fleurs sont deux victimes anonymes de la Grande Terreur, des opérations de masse de la Grande Terreur, qui forment 90% des victimes de ce meurtre de masse. Je rappelle, 750 000 fusillés en l'espace de 16 mois, 1937-38.
Dans La route de la Colima, paru chez Belin en 2012, vous racontez, c'est un livre d'une autre nature, votre voyage à l'Orient de l'ancien Empire soviétique pour aller y chercher ce qui peut rester de traces du goulag. Grand merci, Nicolas Werth. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site et les références, vous le savez, des documents sonores que nous avons utilisés, dont les deux chansons que je vous ai fait entendre. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de l'adoption de la Constitution tunisienne, grand sujet de satisfaction pour les amis de ce pays. Et par comparaison, nous évoquerons la Tunisie de Bourguiba pour voir les permanences et les différences par rapport à l'époque de ce premier grand dirigeant du pays au moment de l'indépendance. Et je recevrai pour cela Jean-Pierre Filliou. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et par Jeanne Guérou, une émission réalisée, comme chaque semaine, par Patrick Molinier, avec la prise de son Clément Berman, à la discothèque Romain Couturier et Véronique Jolivet pour les archives INA, et aussi avec l'aide précieuse des documentalistes de la bibliothèque de Radio France. Et dans quelques instants, Dominique Rousset et ses invités pour l'économie en question.
жити, тільки разом зможем все змінити, набридло терпіти, так не можна жити, тільки разом зможем все змінити.